Les évangiles n'ont jamais cherché à cacher les faiblesses et même les défauts de ceux que Jésus avait choisis. Aujourd'hui, c'est Jacques et Jean qui sont sur la sellette. Deux des disciples les plus proches de Jésus. Deux frères pour qui Jésus avait, on le sait, une grande amitié. Et les voici en train de vouloir tirer avantage de l'affection que Jésus leur porte pour obtenir des privilèges. Quand tu seras au pouvoir, donne-nous de siéger à ta droite et à ta gauche. Autrement dit, donne-nous des postes importants. La réponse de Jésus est sans appel. Celui qui veut être le premier se fera le serviteur de tous. Voilà la règle à laquelle tout disciple doit se conformer. Et Jésus va le leur rappeler le soir du dernier repas par le geste du lavement des pieds. Lui, le Seigneur et le Maître, prendra la place du serviteur en accomplissant une tâche réservée dans l'Antiquité aux esclaves. Non, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Au cœur de la foi chrétienne, il y a la croix. Et sur la croix, le Fils de Dieu, le premier des premiers, prend la place du dernier des derniers. Le Fils de Dieu n'est pas venu sur la terre pour exercer le pouvoir, mais pour servir son Père en nous aimant jusqu'au bout. Ceux qui veulent se rapprocher de Dieu doivent prendre le même chemin que Dieu a pris pour se rapprocher de nous. Quand nous oublions que l'autorité n'a de sens que lorsqu'elle est exercée dans un esprit de service, c'est que nous avons oublié la croix. Pour un disciple du Christ, cet oubli est la tentation la plus grave. Et cette tentation, hélas, nous le savons, n'a pas épargné l'Église tout au long de son histoire. Mais l'histoire de l'Église est aussi marquée par des hommes et des femmes qui nous montrent qu'il est possible de s'accomplir en se laissant guider par le Christ dans le service de l'amour de Dieu et du prochain. Et c'est aussi cela, l'actualité de l'Église. Le pape François aime répéter aux jeunes cette phrase « Ne vous laissez pas voler votre espérance. Ne vous laissez pas voler votre espérance. » Nous connaissons tous des moments où notre foi passe, passez-moi l'expression, par une baisse de régime. Cela nous arrive à tous, je pense. Alors, à ce moment-là, cherchons à refaire le plein d'espérance en regardant le témoignage que nous donnent les saints. Je viens d'achever un livre sur la vie du bienheureux Carlo Acutis. Vous devez le connaître, il a beaucoup de succès auprès des jeunes. Ce jeune Italien, mort à l'âge de 15 ans d'une leucémie foudroyante, a été béatifié il n'y a pas longtemps par le pape, en 2020, il est mort en 2006. Et dès son enfance, il s'est laissé attirer par l'Eucharistie. Il avait 6-7 ans, quand il demande de recevoir la première communion, une famille qui était assez éloignée de la foi. Et puis, à partir de cette première communion, chaque jour, il voulait recevoir l'Eucharistie, assister à la messe. Et puis, ne se contentait pas simplement de participer à la messe. Dès qu'il sortait de la messe, eh bien, il allait à la rencontre des marginaux, à la rencontre des plus fragiles. Et toute sa vie, il a témoigné, jusqu'à sa mort, dans de graves souffrances, de l'amour de l'Eucharistie. Et ce livre, il a été écrit par sa mère. Et l'année prochaine, le pape François va canoniser ce jeune saint. Voyez, quand nous lisons la vie d'un saint, nous ressentons en nous cet appel à donner à notre vie une autre dimension, au-delà de la médiocrité, d'une existence sans valeur. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. La seule grandeur à laquelle un chrétien doit aspirer, c'est la sainteté. Aimer le Christ, le servir en aimant son prochain de manière désintéressée, ne diminue en rien notre personnalité, au contraire. Au contraire, cela l'épanouit, parce qu'en suivant le chemin de la sainteté, nous devenons ce pour quoi Dieu nous a fait. Nous avons été créés pour aimer. C'est pour cela et pour rien d'autre que nous sommes sur cette terre. Au contraire, vivre pour dominer, s'enfermer dans la recherche du pouvoir, c'est comme s'enfermer dans un labyrinthe sans ne jamais trouver comment en sortir. Eh bien, Jésus nous montre le chemin de la sortie. Les chefs des nations païennes commandent en maître, les grands font sentir leur pouvoir parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Alors attention, Jésus ne dit pas que c'est mal de vouloir exercer des responsabilités. Celui qui veut être le premier sera le serviteur de tous. Jésus rappelle que tout pouvoir, que toute autorité temporelle ou même spirituelle n'a de légitimité que dans le service et pour le service. Dans une entreprise, par exemple, un chrétien peut aspirer très légitimement à exercer des responsabilités de premier plan. Il en est de même dans l'engagement politique. Il est même urgent et nécessaire que des hommes et des femmes qui croient dans l'Évangile s'engagent dans une société pour plus de cohésion, plus d'harmonie, pour servir la dignité de la personne humaine, de sa conception jusqu'à son terme naturel, sans oublier bien sûr les blessés de la vie. Chers amis, imaginez ce que serait le monde si chacun de nous apprenait à dépasser la seule recherche de son intérêt particulier pour chercher toujours à servir le bien commun. Nous le savons, il est toujours plus facile de diviser que d'unir. Il est toujours plus facile de détruire que de construire. Se faire le serviteur de tous, comme nous le demande Jésus dans l'Évangile de ce jour, c'est chercher à unir plutôt qu'à diviser. C'est chercher à construire au lieu de détruire. Dans nos activités professionnelles, dans nos engagements associatifs et particulièrement dans nos engagements d'église. Mais, cela commence, ne l'oublions pas, dans nos relations avec nos proches, dans notre famille, dans votre couple, avec vos enfants, avec nos amis. La tentation de dominer, la tentation d'exercer un pouvoir sur l'autre sera toujours contraire à la loi de l'amour que nous enseigne l'Évangile. Jésus nous rappelle que la seule manière d'aimer vraiment, c'est de servir, et cela sans calcul, dans un esprit de vérité, en ayant le souci de rechercher le bien de ceux que l'on veut servir. Et il en est de même dans notre relation avec Dieu, c'est-à-dire dans la prière. Vous avez entendu ce que demandent Jacques et Jean. « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Quelles sont les demandes que nous adressons à Dieu dans la prière? Il nous arrive de faire des prières qui ressemblent plus ou moins à la demande des apôtres Jacques et Jean, c'est-à-dire de prier de manière intéressée, de faire des demandes conformes à notre intérêt personnel sans rechercher toujours ce qui est bon, ce qui est juste, et surtout ce qui sera conforme à la volonté de Dieu. J'ai été scout, beaucoup d'entre vous l'ont été, et il y a une prière qu'on récite tous les jours, sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Voilà la récompense que nous devons attendre du Seigneur. Pas d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons sa volonté. Que voudriez-vous que je fasse pour vous, dit Jésus? Eh bien, la réponse, nous la connaissons. Dieu nous a tout donné dans son Fils. Les apôtres, Jacques et Jean, avaient le privilège de l'amitié de Jésus. Que pouvaient-ils demander le plus important que cette amitié? Alors, avant d'adresser une demande à Dieu dans la prière, pensons à regarder la croix et nous comprendrons combien nous sommes aimés. Nous comprendrons le privilège inestimable de l'amitié du Christ. Comme le disait l'Épître aux Hébreux dans la deuxième lecture, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable de partager nos faiblesses. Que pourrions-nous demander de plus grand? Que pourrions-nous demander de plus beau qu'un ami fidèle capable de partager nos faiblesses? Eh bien, c'est cet ami qui vient nous rencontrer ce matin dans cette Eucharistie et qui nous accorde la grâce de nous asseoir à sa table. Amen. Permettez-moi de remercier ceux qui, dimanche après-midi, ont accompagné la messe de mon installation par Mgr Turini, particulièrement les équipes qui sont mises au service à l'apéritif, particulièrement la fraternité Jean 23, et puis les scouts. Et puis un grand merci à la chorale, aux musiciens, aux organistes, à la maîtrise. Si la sainteté nous attire vers Dieu, et nous en avons besoin, je crois aussi, comme Benoît XVI, que la beauté sauvera le monde et vous y participez à nous faire rapprocher de Dieu à travers la beauté de la musique et du chant. Merci.